don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What's the reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的母
亲达姆家正忙碌着跟我们说话。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, mais aussi Clémence Alezard, Xavier Martinet, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en ondes ce matin par Jacques Hubert. Nous parlons cette semaine de dissidence à l'occasion de la parution demain du livre de Michel Etchaninov, Les Nouveaux Dissidents. Après avoir évoqué le cas de la Chine hier, on va s'intéresser à la Russie. Dans l'imaginaire collectif, la période soviétique est directement rattachée à l'activisme de certains dissidents. Andrei Sakharov, Alexandre Solzhenitsyn, Vladimir Bukovsky. Et lorsqu'ils disparaissaient, c'est une partie de l'histoire du XXe siècle qui s'envolait avec eux. D'ailleurs, la semaine dernière, on apprenait justement la disparition de l'une des grandes figures des premiers dissidents soviétiques, Alexandre Essénine Volpine, poète, mathématicien, qui le 5 décembre 65 avait organisé une manifestation à Moscou, place Pouchkine, pour demander un procès public pour deux écrivains, Andrei Sinyavsky et Yuli Daniel, arrêtés quelques mois auparavant. Une manifestation totalement inédite jusqu'alors et qui allait constituer l'un des éléments fondateurs de l'histoire de la dissidence dans ce monde soviétique. Mais alors qu'ils avaient un peu disparu à la faveur de la dislocation de l'URSS, les voilà de retour pour dénoncer les dérives autocratiques du régime actuel. Russie, Biélorussie, Ukraine, résister au gel des consciences.
Dites à vos dirigeants que ce régime est criminel. C'est un état policier. Ils arrêtent les gens n'importe où parce qu'ils ont peur.
Да, таких моментов было несколько, и последний был буквально за три дня до.
Il y a eu plusieurs moments où j'ai cru que je ne sortirais jamais de prison. Et le dernier a eu lieu trois jours avant ma libération. C'est un système très soviétique, très stalinien. Un prisonnier arrivant à la fin de sa peine sait qu'il va être libéré d'ici un mois ou deux, et c'est à ce moment précis qu'on rallonge sa sentence, au moment où la liberté semblait si proche.
Through corruption, I think it's at least something about $50 billion a year.
Le coût de la corruption représente à mon avis au moins 50 milliards de dollars par an. Poutine est le tsar de la corruption. Il en est le fondement car il est lui-même personnellement impliqué et il incite tous les membres de la haute administration à fonctionner comme ça, car c'est sa façon de diriger ce pays.
Vous avez peut-être reconnu les voix d'Alexei Navalny, avocat militant politique qui avait qualifié le parti du chef du Kremlin de parti de voleur et d'escroc et qui avait été l'un des fers de lance d'une série de manifestations contre le régime. Depuis sa condamnation en juillet 2013 pour détournement de fonds, alors qu'il venait de se porter candidat aux élections municipales de Moscou et pour lesquelles d'ailleurs certains instituts de sondage le créditaient de près de 30% des suffrages, Navalny ne peut plus participer à la vie politique de son pays. Mikhail Khodorkovsky, oligarque russe, emprisonné en 2004 pour vol par escroquerie à grande échelle et évasion fiscale, finalement gracié par Poutine et libéré en décembre 2013, même s'il n'en a pas tout à fait fini avec la justice, puisque en décembre dernier, un mandat d'arrêt international a été émis par la Russie. Et puis Garry Kasparov, ancien champion d'échecs, reconverti en opposant farouche de Vladimir Poutine. Trois opposants, trois dissidents politiques russes, mais il y en a bien d'autres, des voix qui peinent à se faire entendre tant la pression du Kremlin à leur égard est forte. On va s'intéresser ce matin aux dissidents russes. En quoi les nouveaux dissidents se démarquent-ils de leurs aînés, outre leur mode de contestation? En quoi le message délivré au monde est-il différent et que nous disent-ils finalement des dérives autocratiques de la Russie de Vladimir Poutine? On retrouvera l'un de ces dissidents, justement, Alexandre Tcherkassov, président de l'organisation russe de défense des droits de l'homme Mémorial, une ONG menacée de fermeture. Et puis on s'intéressera également à la Biélorussie, où là aussi, malgré les efforts, les dissidents ont bien du mal à se faire entendre dans ce pays dirigé depuis plus de 20 ans par le même homme, Alexandre Loukachenko. On en parlera tout à l'heure avec Virginie Simianek et on verra que dans ce cas, l'effort se concentre sur la culture. On verra ça tout à l'heure. Pour évoquer ces nouvelles dissidences, on a invité justement celui qui nous a soufflé l'idée de faire cette série sur les nouveaux dissidents. Bonjour Michel Etchaninov.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, journaliste, essayiste, rédacteur en chef par ailleurs, adjoint de Philosophie Magazine. Et puis vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Les Nouveaux Dissidents, qui va paraître chez Stock demain. Avec la dislocation de l'URSS, ces dissidents sont un peu un peu quitté la scène politique et médiatique, et puis à la faveur de la dérive autocratique d'un certain nombre de pays, on va parler beaucoup de la Russie, mais il y en a évidemment d'autres, de nouveaux dissidents vont réapparaître, et c'est à cette nouvelle génération que vous avez voulu consacrer cet ouvrage, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, mais aussi la Chine, Hong Kong, Macao, l'Iran, le Mexique, et j'en passe. Quand on pense à des grandes figures de l'opposition, on pense notamment aux trois qu'on a voulu mettre en exergue là, Alexeï Navalny, Khodorkovsky, Kasparov. Aujourd'hui, ces voix dissidentes, elles sont devenues totalement muettes, totalement inaudibles. Nous les connaissons en Occident, mais pour les Russes, on ne les entend pas.
Bah effectivement, ils ont dû d'abord, ils ne sont pas relayés. Khodorkovsky est considéré comme un oligarque qui, on dit dans les médias russes, qui a volé des milliards au peuple. Donc on le discrédite en permanence. Donc en fait, on l'empêche de participer finalement à cette vie publique. Par ailleurs, il est actuellement en Occident et donc il a du mal à revenir en Russie. Navalny a été condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis. Son frère, lui, est en prison. Donc Navalny est sous une pression intense du pouvoir russe. Alors, ce qui ne l'empêche pas de continuer ses activités sur Internet, parce que lui, c'est quelqu'un qui fait des enquêtes sur la corruption, notamment des proches de Vladimir Poutine, par des outils collaboratifs et sur Internet. Donc, il se fait quand même entendre d'une partie de la population. Et Kasparov, lui, a dû quitter la Russie, sous la pression des autorités. Donc, effectivement, en Russie, ces voix sont étouffées.
Michel Etchaninov, en sélectionnant justement ces voix, je me suis posé une question. Au fond, est-ce qu'il s'agit véritablement de dissidents ou alors d'opposants politiques? Ce qui va nous permettre peut-être de revenir aux fondamentaux et de voir comment est-ce qu'on peut définir les nouveaux dissidents. Parce que vous avez plusieurs critères, la non-violence, l'individualisme, le fait de privilégier l'action ouverte et transparente. C'est comme ça que vous définissez la nouvelle dissidence. C'est des dissidents ou ce sont des opposants politiques?
Alors, effectivement, ce ne sont pas des dissidents au sens strict, les trois qu'on vient de citer, parce que un dissident, c'est d'abord quelqu'un qui agit en son nom propre, comme citoyen, même comme humain parfois. C'est une démarche éthique. C'est une démarche éthique, donc on est non-violent, on agit au grand jour, on n'est pas un clandestin. Et puis surtout, effectivement, on agit pour soi-même. Alors, c'est là que on peut évidemment réfléchir aux termes à utiliser en ce qui concerne Alexeï Navalny, qui est aussi maintenant un homme politique, qui a son parti, qui s'appelle Progrès. On peut penser à Khodorkovsky, qui a aussi son mouvement Russie ouverte, ou à Kasparov, qui a participé à la vie politique. Donc évidemment, ici, on peut discuter des termes. En même temps, ce qui est intéressant en ce qui concerne le cas russe, c'est qu'on assiste à un devenir dissident de l'opposition russe. Pourquoi ? Tout simplement parce que le jeu politique où il y a un pouvoir et des opposants ne fonctionne plus en Russie.
Oui, puisqu'il n'y a pas d'opposition, nécessairement l'opposant se transforme en dissident. Voilà. C'est ça que vous voulez dire.
C'est ce que je veux dire, d'autant plus qu'il y a un an, on a assassiné un opposant politique, qui n'était pas un dissident, qui était un opposant, Boris Nemtsov. Et depuis que donc on a assassiné Nemtsov et que l'opposition dite non systématique, c'est-à-dire qui n'est pas représentée au Parlement, qui est disons libre et démocratique, qu'elle est étouffée et attaquée par des affaires judiciaires, on se rend compte que depuis donc au moins un an, il y a ce devenir dissident de l'opposition qui fait que ses opposants d'alors, deviennent de plus en plus des figures personnelles qui osent affronter le pouvoir et qui savent qu'elles peuvent en payer le prix, comme Nemtsov en a payé le prix l'année dernière. Donc voilà, il y a ce mouvement-là qui fait que il se passe un phénomène actuellement en Russie, comme si on renouait justement avec cette histoire de la dissidence.
Alors justement, vous rappelez dans votre livre que évidemment, le contexte dans lequel a émergé ce terme dissident, c'est d'abord le contexte soviétique et puis ensuite il s'est étendu à d'autres environnements, même si évidemment le terme existait avant l'URSS. Mais outre le fait que le dissident a ce site particulier qui l'a appartenu à un moment au système avant de le dénoncer, vous dites qu'il y a donc ces trois caractères. Le dissident, il est non-violent, il est individualiste et il privilégie l'action ouverte et transparente. Individualiste, Pourquoi est-ce que le dissident est individualiste? Il a quand même le projet de s'attaquer à un système pour éventuellement, quand même, in fine, le faire tomber. C'est aussi un projet politique, et alors donc un projet de société.
C'est souvent un projet politique, même s'il n'est pas forcément très articulé. C'est plutôt ce qu'on appelle dans la philosophie grecque le thumos, c'est-à-dire l'indignation qui va primer dans l'action du dissident. Le dissident proteste en son nom propre. Il n'est surtout pas le petit soldat obéissant d'une structure politique. C'est pas un activiste au sens où il va accepter de s'intégrer dans une structure où il n'aurait qu'à exécuter des ordres. C'est là où je parle d'individualisme. D'accord. On peut évidemment discuter le terme, mais ce que je trouve justement précieux chez un dissident, c'est qu'il n'est pas le soldat anonyme d'une organisation. C'est qu'il y a d'abord une individualité qui s'indigne, donc évidemment qui a des liens avec d'autres. Ça crée des groupes. Les dissidents agissaient par groupes, des groupes souvent informels, hein, plus que des partis d'ailleurs. Et en fait, donc ils s'allient, ils travaillent en commun, en réseau, en groupe, mais il reste d'abord cette personne qui s'engage en son nom propre.
Et vous dites que, à propos de ces nouveaux dissidents, qu'ils s'intéressent moins finalement à l'idéologie. Est-ce que ce désintérêt relatif pour l'idéologie, est-ce que c'est une caractéristique spécifique aux nouveaux dissidents qui nous intéressent aujourd'hui, ou est-ce que finalement c'est plus généralement une marque de notre temps?
Je crois que c'est plus généralement une marque de notre temps, parce que j'ai remarqué ce désintérêt à l'endroit de l'idéologie, par exemple, chez certains Iraniens. Quand je suis allé, j'ai rencontré une dissidente iranienne qui allait chanter la chanson Happy sur les toits de Téhéran, sans foulard, avec des garçons. Elle en a payé le prix en faisant un peu de prison et en étant dénoncée dans un grand scandale national. C'est quelqu'un qui m'a dit, mais moi, la politique, ça m'est égal. Moi, j'aime mon pays, j'ai envie d'y vivre libre. Donc, il y a un côté génération Y de la dissidence qui existe en Iran, qui existe dans plusieurs pays du monde. Évidemment, les situations sont dissemblables, mais c'est vrai que ce qui compte aujourd'hui dans cette dissidence peut-être encore plus individualiste qu'avant, c'est que d'abord on lutte pour sa propre liberté.
Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Живи просто святому подобно. Не ешь скоромное, потребляй скромное. И встанешь на ноги скоро. Зампрокурора, прокурор, коммунистическая партия, дружба с олигархами.
Voilà, vous aurez peut-être reconnu la voix de Nadeja Tolokonikova, qui est membre des Pussy Riot, célèbre groupe de punk qui avait défié Poutine avec cette prière punk chantée en février 2012 contre le président russe dans la cathédrale du Saint-Christ Saint-Sauveur à Moscou, ce qui lui avait valu 2 ans de goulag. D'ailleurs, son internement dans un camp de prisonniers avait fait naître chez elle un nouveau combat autour de la question des conditions d'enfermement, hein, puisque Nadeja d'ailleurs vient de publier un ouvrage Désir de révolution, dans lequel elle évoque toutes ces questions-là. Ça, c'est son tout nouveau clip, sa toute nouvelle chanson qui s'appelle Tchaïka, nom du procureur général de Russie, un clip dans lequel il est question de son fils, un personnage qui illustre parfaitement la corruption des élites russes. Les Pussy Riot, elles ne sont pas dans votre livre, ça ne fait pas partie des nouveaux dissidents.
Si, elles y sont au début, je parle justement de cette action, de cette prière punk dans l'église
oui, vous l'évoquez,
du Christ
mais,
Sauveur.
Mais vous n'en avez pas rencontré.
Alors
aucune
en fait, Nadeja Tolokonikova, j'ai correspondu avec elle. D'accord. Quand elle était encore en prison. Oui. En fait, j'ai organisé une correspondance entre elle et le philosophe Slavoj Žižek pour Philosophie Magazine. Et ensuite, elle est sortie de prison, heureusement.
C'est l'archétype de la nouvelle dissidence?
Quand même, parce que ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle dissidence, ici, est très artistique. Elle est fondée... Nadeja Tolokonikova, c'est quelqu'un qui dépend d'un groupe d'art contemporain actionniste, donc qui crée des événements, des installations, des happenings, souvent très provocateurs, et qui a fait du bruit dans la Moscou des années 2000, début 2010. Et le groupe Pussy Riot est une émanation de ce groupe qui s'appelait La Guerre, un groupe d'artistes contemporains. Et effectivement, ils font des actions qui portent des noms. Ils font des actions qui sont souvent très provocatrices, comme celle de faire une prière à la Mère de Dieu dans la cathédrale qui, en Russie, symbolise l'union du sabre et du goupillon, c'est-à-dire le soutien sans faille de la hiérarchie orthodoxe en Russie à la politique nationaliste de Poutine. Donc, quelque chose de très provocant, s'attaquer à l'Église, qui en Russie était intouchable, ce qui d'ailleurs explique la violence de la réaction, hein. Deux ans de prison, de colonie pénitentiaire. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il y a un aspect artistique. La dissidence, elle invente toujours. À l'époque, dans les années 60, ils faisaient des poèmes. C'est davantage, vous savez, des milieux où on faisait des poèmes ou des manifestations. Ou alors, c'était des juristes qui voulaient défendre les droits des citoyens. et qui disait à l'État soviétique, mais on fait ce que vous nous demandez, on défend les droits. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte qui est intéressant, qui utilise beaucoup l'art contemporain, mais aussi la musique.
Ce qui est frappant dans le cas des Pussy Riot, c'est que évidemment il y a cette réponse absolument foudroyante de la justice, du régime, mais au fond, parce qu'il faut se demander aussi quel effet tout ça a sur la société. Et en réalité, je me souviens du moment où il y avait eu la condamnation, une frange importante de la société russe considérait que cette condamnation était méritée.
Oui, alors effectivement, parce que en Russie, même si la pratique religieuse n'est pas très forte, il y a aujourd'hui une sorte de revival de l'église orthodoxe qui fait que ça ne se fait pas du tout de faire une prière punk dans une église en Russie. Ça choque les fidèles. Donc il y a une partie des citoyens qui étaient choqués, mais le fond du problème, c'est que il y a une forme d'inculture juridique en Russie qui est entretenue par l'État. C'est-à-dire que la justice en Russie ne fonctionne pas. Les juges sont très souvent payés, ça, il y a beaucoup de documentation là-dessus, pour donner des jugements. Donc le peuple ne croit pas à la justice, ne croit pas à la force du droit, et donc n'a pas vu l'aspect juridique de l'affaire, qui est qu'on a condamné une femme à 2 ans de prison pour injure au sentiment religieux, ce qui est absolument presque iranien comme situation dans un pays d'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, je pense que le fond du problème, c'est que la télévision russe essaie de maintenir la population dans une forme d'indifférence à tout ce qui touche aux droits des citoyens.
Alors vous revenez sur l'épisode aussi du mouvement de l'Euromaïdan qui avait fait suite à cette décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Ces manifestations, elles avaient été marquées, on s'en souvient, par d'importantes, très importantes violences qui se sont poursuivies pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines et qui avaient provoqué la destitution du président Yanukovych. Et c'est dans ce contexte que s'est réveillée une ancienne dissidence qui a repris du service, la dissidence tatare.
Je ne dis pas que les soldats de l'OTAN devraient venir chasser les troupes russes hors de notre territoire, mais un ensemble de mesures devrait être trouvé pour faire en sorte que la Russie ne puisse pas commettre ce genre d'agression contre ses voisins sans rétorsion. Nous n'allons pas nous faire harakiri. La vie doit suivre son cours. Nous allons rechercher différentes façons de défendre les droits et de sauver les vies de nos compatriotes. Notre nation n'est pas suffisamment grande pour lutter contre la Russie.
Mustapha Djemilev, membre du Parlement ukrainien, qui se rendait là au siège de l'Alliance Atlantique à Bruxelles en quête d'un certain soutien au moment de l'annexion de la Crimée. C'est une des figures, moi, qui m'a particulièrement marqué dans votre ouvrage, Michel Etcheninov. Vous nous parlez de cet ancien dissident de l'époque soviétique qui a repris du service et dont l'histoire, finalement, incarne très bien l'injustice vécue par les Tatars de Crimée, qui, faut-il le rappeler, à partir de 1944, pendant plusieurs années, sont déportés sur ordre de Staline sous prétexte qu'ils avaient collaboré avec les nazis.
Mais ce qui est d'ailleurs totalement faux. Mustapha Djemilev, c'est un peu la figure tutélaire de cet ouvrage, parce que c'est un ancien dissident, c'est quelqu'un qui a subi cette déportation en 1944, qui a donc dû grandir en Asie centrale, loin de chez lui, en Ouzbékistan, et qui, dès les années 60, a essayé de faire valoir les droits de son peuple, tout simplement à revenir chez soi dans la péninsule de Crimée. Et donc, il a vécu des années de prison, à répétition, avec justement cette volonté de la part de l'État soviétique de briser les hommes. Briser les hommes, par exemple, en leur faisant miroiter une sortie de prison et en les remettant en prison quelques jours avant qu'ils sortent, en trouvant un nouveau prétexte pour les rejuger et les remettre en prison. Et Mustapha Djemilev, c'est quelqu'un qui a énormément lutté, qui a fait des grèves de la faim et qui a été montré un tel courage que en 1976, Andrei Sakharov lui-même est allé à son procès. Alors on a reporté le procès pour que Sakharov ne puisse pas y assister. Sakharov est revenu. En fait, la dissidence, c'est une histoire véritablement de persistance. Il faut être très têtu pour être dissident. Et Djemilev est à ce moment-là devenu célèbre. Et il a continué à lutter. Et en 1985, il était encore en prison. Il était encore en prison et parce que son peuple n'avait toujours pas le droit de revenir chez lui. Et ça n'a été autorisé qu'en 1989. Donc Mustapha Djemilev, avec les Tatars de Crimée, qui représentent tout de même 12% de la population, population de Crimée, qui est leur la Crimée, c'est leur pays, c'était le Khanat des Tatars de Crimée, la Crimée au départ. Et revient chez lui en 89, se réinstalle, il retrouve les racines de leur culture, il retrouve leur maison. Et qu'est-ce qui se passe en 2014? Vladimir Poutine, pour se venger du rapprochement de l'Ukraine vers l'Europe, pour se venger de l'Euromaïdan, envoie des forces spéciales et des soldats sans insigne en Crimée, organise un référendum sous occupation, et les Tatars se retrouvent à nouveau sous occupation russe, ce qui pour eux équivaut à l'occupation soviétique. Mustapha Djemilev proteste, Mustapha Djemilev ose affronter Vladimir Poutine au téléphone.
Ah oui, ça faut que vous racontiez ça, c'est absolument incroyable, parce que Poutine cherche à joindre Djemilev par téléphone. Racontez-nous le contenu de la conversation, qui est incroyable.
Alors voilà, Poutine en fait veut faire de Djemilev un allié. Il se dit tiens, ça va être comme le Tchétchène, le chef Tchétchène, le Kadyrov tatar. Donc il veut une conversation avec Djemilev. Djemilev lui dit d'accord, et à ce moment-là, il l'appelle et lui dit écoutez, j'aimerais bien discuter avec vous du retour de la Crimée dans le giron maternel de la Russie. Djemilev lui répond, écoutez, c'est pas avec moi qu'il faut discuter, faut discuter avec les autorités légitimes de la Crimée, c'est-à-dire le gouvernement de Kiev. Et ensuite, Vladimir Poutine se met à lui faire des menaces voilées, à lui dire, mais vous savez, s'il y a une situation de crise et si des Tatars attaquent des soldats russes, ça pourrait provoquer des réactions très fortes. Et à ce moment-là, Djemilev, dont la caractéristique, comme celle de tout dissident, est de ne pas avoir la langue dans sa poche et d'oser appeler les choses par leur nom, dit à Vladimir Poutine, mais écoutez, vous faites du chantage. Vous êtes le président de la Russie, vous faites du chantage. Mais alors à ce moment-là, vous êtes pas un président, vous êtes un maître chanteur, vous êtes un terroriste.
Et moi, je ne parle pas aux terroristes.
Voilà, il dit, je ne parle pas aux terroristes, et raccroche. Et ça, typiquement, on retrouve, je trouve, la beauté presque morale de la dissidence, qui est justement de ne pas avoir peur. Et donc de dire à Vladimir Poutine, bah, tant pis, moi je refuse de marchander le retour de la Crimée à la Russie avec vous, tant pis pour vous. Résultat, Mustapha Djemilev est exclu de Crimée, et donc est désormais dans le reste de l'Ukraine. Son fils est détenu pour une affaire de droit civil, mais détenu en Russie. Et on fait chanter Mustapha Djemilev pour lui dire « si tu acceptes d'assouplir un peu ta position, on libérera ton fils ». Et surtout, comme l'a dit Mustapha Djemilev, les Tatars de Crimée sont tous en dissidence, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à une politique de peur. Il y a eu 18 disparitions de Tatars, certains ont été retrouvés morts par ce qu'on appelle les forces d'autodéfense, c'est-à-dire des milices pro-russes en Crimée. C'est-à-dire qu'on est dans une situation d'oppression à laquelle, à plus de 73 ans, Mustapha Djemilev répond avec le courage qu'il caractérise.
Vous parlez de courage, justement. J'ajoute justement une partie du contenu qu'il dit à Vladimir Poutine. Vladimir Vladimirovitch, nous ne sommes pas des enfants. Hitler aussi a proposé un référendum à l'Autriche pour la réunification avec l'Allemagne. Était-ce pour autant légitime? Je ne crois pas que cette comparaison lui ait beaucoup plu, dit-il.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, Djemilev a dit les choses.
Il n'a pas peur, hein.
C'est-à-dire que il fait des comparaisons qui gênent évidemment Vladimir Poutine. L'Anschluss, ça gêne évidemment Vladimir Poutine. Et Djemilev, à ma connaissance, est, je pense, un des seuls au monde à lui avoir dit ce type de choses.
On imagine que Poutine lui a peut-être répondu que ça n'a rien à voir puisque les habitants de Crimée ont participé à un référendum et qu'ils ont autorisé finalement cette annexion de la Crimée, en tout cas ce rattachement, pour reprendre plutôt les mots de Vladimir Poutine, ce rattachement à la Fédération de Russie.
Référendum mené sous occupation étrangère par les forces spéciales russes, sans aucune, évidemment, accord du gouvernement légitime de Kiev et sans aucune concertation internationale.
Vous avez demandé à Djemilev ce qui distingue son activité dissidente d'avant et celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous répond ?
Pour lui, c'est la même chose. Pour lui, il me dit, je lui dis, pourquoi vous faites tout ça? Parce que ce qui est terrible pour lui, c'est que voilà, à 45 ans, il pensait qu'il allait enfin pouvoir se reposer chez lui. Il se retrouve aujourd'hui à plus de 70 ans à nouveau dissident. Et je dis, mais qu'est-ce qui vous donne la force de continuer? Il me dit, c'est un minimum de dignité humaine. On peut pas accepter que la dignité de votre peuple soit ainsi écrasée. Donc je continue. Donc lui, il continue à l'ancienne.
Oui. C'est-à-dire, il vous dit, à l'époque, le combat, c'était de faire revenir les Tatars en Crimée. Aujourd'hui, le combat, c'est d'éviter qu'ils ne partent.
Voilà, c'est ça. Il dit quand même qu'il y a une seule différence, mais qui vient plus du pouvoir que de la dissidence, c'est qu'à l'époque soviétique, en tout cas dans les années 60-70, on ne tuait pas les dissidents. Aujourd'hui, Boris Nemtsov ou les disparitions de Tatars de Crimée le démontrent, aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'on tue des personnes.
Где мы должны находиться? Отвечайте нам. Где? Дома. А дома можно находиться?
Et on se souvient, Michel Tchalinov, des manifestations qui avaient eu lieu lors de l'élection de Vladimir Poutine au poste de président en remplacement de Dmitri Medvedev. Pourtant, malgré les contestations et les fraudes, Poutine a tout de même remporté cette élection avec plus de 60% des suffrages exprimés. Il y a des élections qui se préparent là pour septembre prochain. Vous pensez que ce sera l'occasion pour les voix dissidentes justement de se faire entendre? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir, comme en 2012, des vagues de manifestations comme on l'a connu?
En fait, les manifestations les plus dangereuses pour Vladimir Poutine ne sont pas celles qui accompagnent l'élection présidentielle, qui sont un plébiscite vis-à-vis de celui qui aurait rendu la grandeur de la Russie, mais les élections législatives. Parce que le parti du président, le parti Russie Unie, est quand même unanimement détesté par le peuple à cause de la corruption, du népotisme qu'il caractérise.
Et là, c'est des élections législatives
et qu'on attend en septembre. Et ce sont justement des élections législatives comme celle de décembre 2011 qui avait lancé ce grand mouvement de contestation. Donc là, on est dans une situation où Vladimir Poutine joue sur du velours. Il va devoir faire attention à ce que justement les députés du parti Unie qui assurent sur le fait que toutes ces lois soient votées immédiatement par un parlement à ses ordres, soient réélues. Donc on entre effectivement dans une période délicate. Donc c'est pour ça que la répression depuis 2011-2012 contre ce qu'on appelait tout à l'heure le devenir dissident de l'opposition et les dissidents est de plus en plus forte. Je vous donne un seul exemple. Il y a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur en juillet 2014 qui interdit de répéter plusieurs fois, de participer plusieurs fois à des manifestations interdites. Et donc, il y a
On peut participer une fois à une manifestation interdite, mais pas plusieurs fois.
Alors, une fois, c'est des fortes amendes. Il y a des très fortes amendes. Plusieurs centaines de milliers de roubles. Donc, des très fortes amendes qui sont faites pour, évidemment, dissuader les gens de participer. Mais quand on participe plusieurs fois, on peut être condamné à la prison. Et donc, il y a un opposant qui s'appelle Ildar Dadin, qui est un citoyen qui simplement participe à des manifestations. Quand il y a des arrestations, etc., il fait des manifestations, même parfois solitaires, avec une pancarte. Eh ben, il a été condamné en décembre à 3 ans de colonie, parce qu'il avait fait 4 manifestations. Sans violence, hein. Il a juste participé. Et donc, il est actuellement en prison pour 3 ans pour avoir participé à des manifestations. Donc, il y a eu un durcissement législatif très fort en Russie depuis 2012. Et puis enfin, je rajouterais que ce qui rend la situation un peu plus dangereuse qu'avant, et c'est pour ça que je parlais de la différence entre la dissidence d'antan, où on envoyait les gens au goulag, et la dissidence d'aujourd'hui, où parfois on tue les opposants, c'est que dans une période d'hystérisation nationaliste de la Russie, après l'Ukraine, Vladimir Poutine a essayé de montrer que la Russie était entourée par un Occident hostile et donc qu'elle devait se défendre coûte que coûte. Donc dans une sorte de, moi je dirais très franchement, de paranoïa nationaliste. Tout ce qui ressemble à l'opposition aujourd'hui est appelé cinquième colonne. Cinquième colonne, c'est-à-dire des traîtres intérieurs. Vladimir Poutine lui-même a utilisé à plusieurs reprises cette expression. Et Boris Nemtsov, dans les rues de Moscou, était parfois affiché, son visage était affiché avec la notion cinquième colonne. Un traître intérieur, c'est pas pareil qu'un opposant loyal, a dit lui-même Vladimir Poutine. Avec un opposant, on peut discuter. Un traître met en péril la nation. Donc, il y a une forme d'augmentation de la violence vis-à-vis des dissidents. Et là, il y a un homme politique qui joue un rôle clé là-dedans, c'est le président de Tchétchénie, Karimov, qui en fait menace de plus en plus ouvertement tous ceux qui osent s'opposer à Vladimir Poutine.
Ramzan Kadyrov,
qui par exemple en...
Oui, lui aussi, il utilise beaucoup cette expression cinquième colonne, justement. Voilà, et dernier exemple en date, effectivement, à propos de Kadyrov, la publication, parce qu'il publie beaucoup sur son compte Instagram, et on a vu des opposants pris en photo du côté de Bruxelles, dont il a l'air de dire dans la légende qu'ils sont là pour trouver un soutien financier, et il y a un montage photo où on les voit à travers la lunette d'un fusil, quoi.
C'est ça.
La menace est assez directe, hein.
C'est-à-dire que l'argument véritable maintenant vis-à-vis de toute opposition, c'est de dire que ce sont des agents de l'étranger. Donc, ils sont là pour détruire la Russie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à un agent de l'étranger? On l'abat. Et cet homme politique, c'était Mikhail Kassianov, qui était dans le viseur. Quelques jours après, dans un restaurant de Moscou, il s'est fait attaquer. Alors, il s'est pas fait tuer, mais il s'est fait attaquer. C'est-à-dire qu'il y a une provocation à la violence à l'endroit de l'opposition aujourd'hui en Russie.
Dans ce contexte, on n'imagine pas une seconde Mikhail Tchalinov, malgré les difficultés économiques du pays, malgré le fait, vous le disiez, que les Russes critiquent de plus plus en plus le parti du Kremlin Russie Unie, on n'imagine pas une seule seconde une victoire électorale de l'opposition. Même pas une majorité, mais je veux dire, une petite victoire. Mais
C'est impossible tout simplement parce que les partis d'opposition ne peuvent pas se présenter parce qu'il faut récolter des signatures et en fait on annule leur participation à l'élection soit en les empêchant d'avoir ces signatures, soit dans une tactique qui est assez perverse, qui consiste à infiltrer des gens qui vont récolter des fausses signatures, puis un juge qui arrive et qui dise « Regardez, il faut invalider cette candidature ». Donc il s'agirait évidemment pas d'une victoire électorale de l'opposition en septembre.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde toute cette semaine autour des nouvelles dissidences à l'occasion de l'apparition de l'ouvrage de Michel Etchaninov, Les Nouveaux Dissidents, qui va paraître chez Stock demain. Michel Etchaninov qui est avec nous ce matin. On va retrouver justement un dissident, Alexandre Tcherkassov, président de l'organisation russe de défense des droits de l'homme Mémorial, la plus célèbre ONG russe créée en 1989 par Andrei Sakharov, qui a été à nouveau la cible des autorités judiciaires russes il y a quelques mois. L'association de défense des droits de l'homme a été accusée de haute trahison par le ministère de la Justice en novembre pour avoir, je cite, appelé au renversement du gouvernement actuel et à un changement de régime politique, une nouvelle atteinte à l'existence de cette ONG qui intervient après son inscription en 2014 dans le registre des associations dites des agents de l'étranger. Mémorial est célèbre pour son travail sur les victimes staliniennes et entre autres, contre aussi le révisionnisme historique favorisé par les autorités actuelles. Alexandre Tcherkassov, le président du Conseil des droits de l'homme de Mémorial, a lui-même découvert les mensonges d'État à Tchernobyl dans les années 80. C'est un chimiste de formation qui a rejoint cette ONG début 90. Il n'a jamais cessé son combat malgré les pressions croissantes, malgré la peur constante d'une nouvelle disparition. En juillet 2009, c'est la militante des droits de l'homme Natalia Estemirova qui avait été assassinée en Tchétchénie. Alexandre Tcherkassov est au micro de Tiffen de Roquigny.
Nous retourner au temps de grande terreur de Staline. Qu'est-ce que c'est que l'activité politique? Pour les militaires, pour les juges, pour les représentants des églises, l'activité politique est décrite comme participer dans le travail des partis politiques ou participer dans les élections. Mais pour les ONG, il y a l'autre définition de l'activité politique. Chaque mot sur quelques problèmes, chaque opinion adressée aux sociétés civiles ou aux autorités est nommée l'activité politique. Aujourd'hui, nous avons 114 organisations dans la liste des agents étrangers qui, selon notre autorité, s'occupent de l'activité politique. Nous avons payé les amendes. C'était plusieurs centaines de milliers de roubles. Mais, voyez-vous, la réaction de société internationale, la réaction de presse, la réaction des fonctionnaires de l'Union européenne a donné le résultat. Après cette lettre du ministère de Justice, nous ne sommes pas fermés. Nous continuons notre travail.
Et alors, vous l'avez dit, Mémorial a fait son entrée en juillet 2014 dans le registre des agents de l'étranger. Donc c'est une étiquette qui est apposée sur les ONG qui perçoivent un financement hors des frontières ou qui ont une activité politique. On l'a vu, la définition laisse libre cours un peu à toutes les interprétations. Aujourd'hui, il y a une centaine d'associations qui sont inscrites dans ce registre, qui a été ouvert dans la foulée d'une loi adoptée en 2012. Aujourd'hui, Alexandre Tcherkassov, quelles sont les conséquences concrètes de cette étiquette pour Mémorial? Qu'est-ce que cela change pour vous au quotidien, dans votre action, d'être étiqueté agent de l'étranger?
Nous avons perdu beaucoup de temps, nos collaborateurs, nos juristes ont perdu beaucoup de temps quand nous avons préparé les papiers pour le ministère de Justice, préparé beaucoup de papiers, plusieurs kilos. Nous avons perdu beaucoup de temps pendant les procès contre le ministère de Justice, contre la procuratura, etc. Nous avons perdu quelques contacts avec les bureaucrates, parce que c'est dangereux pour quelques bureaucrates de continuer les contacts avec les ONG déclarés les agents étrangers. On peut plus difficile de trouver d'argent pour continuer notre travail. Parce que les sources intérieures, ils ne sont pas si riches. Quelques banques ont dit non, nous n'allons pas collaborer avec les agents étrangers, vous êtes les extrémistes, c'est trop dangereux. Ou les sources étrangères, on nous dit, vous êtes les agents étrangers, vous êtes mis dans ce liste, on va vous fermer dans quelques semaines, dans un mois, dans deux mois, faut-il continuer la collaboration ou vous allez mourir? Nous ne sommes pas mortes 3 ans et quelques mois que la législation sur les agents étrangers était établie. Nous n'allons pas mourir.
Nous n'allons pas le mourir, nous dit Alexandre Tcherkassov. En faisant voter cette loi sur les agents de l'étranger, le régime a considérablement compliqué, on l'entend, l'activité des ONG de défense des droits de l'homme. Mais bien que Memorial fasse partie de cette liste d'une centaine d'ONG concernées, eh bien Alexandre Tcherkassov entend continuer son combat.
Nous continuons la collaboration avec les fondations qui ne sont pas mises dans l'autre liste, la liste des organisations indésirables. Parce que plusieurs fondations américaines qui donnaient d'argent aux ONG sont indésirables. La collaboration avec ces fondations est réellement dangereuse. On peut recevoir jusqu'à 6 ans de prison si quelques ONG continuent cette collaboration. Voilà pourquoi l'aide des fondations européennes est aujourd'hui beaucoup plus importante pour soutenir la société civile à la Russie. Nous avons perdu peut-être 15 ou 20 millions d'euros quand les fondations américaines sont quittées notre région.
Et justement, Alexandre Tcherkassov, depuis les manifestations de l'hiver 2011-2012, la lutte contre les opposants politiques n'a cessé de gagner en férocité en Russie. Et l'ONG Mémorial a d'ailleurs fait l'objet d'actions judiciaires qui empruntent en partie leur code au totalitarisme soviétique. Et vous revendiquez vous-même une filiation directe avec la dissidence soviétique des années 70. Est-ce que ça veut dire que les moyens de lutter face à un pouvoir autoritaire et abusif n'ont finalement pas véritablement changé?
À Mémorial, j'ai travaillé plusieurs années sur l'histoire du mouvement de dissidence soviétique. Aujourd'hui, la situation est difficile dans deux aspects. À l'activité des autorités contre les activistes et les ONG, et la réaction de société qui aujourd'hui est peut-être comme une belle endormie, ou pas belle, mais endormie. Il n'y a pas de réaction massive aux violations des droits de l'homme, à la guerre en Ukraine, mais la situation est beaucoup plus simple pour travail. Nous avons beaucoup de sources de l'information, des instruments pour produire l'information, pour collaborer avec les journalistes. Nous n'avons pas de réaction de notre société, c'est un problème. Parce que la situation soviétique, c'était la situation des chambres vides et calmes. Aujourd'hui, ces chambres sont pleines de bruit. Ce bruit, on ne peut pas entendre les mots des activistes qui parlent sur les problèmes vraiment importants.
Alexandre Tcherkassov, président donc de l'organisation russe de défense des droits de l'homme Mémorial, cette ONG menacée de fermeture. Alexandre Tcherkassov qui était au micro de Tiffen de Rokini. Réaction, Michel Elchaninov, à ce que vous venez d'entendre. Vous connaissez évidemment très bien Alexandre Tcherkassov.
Ce que je trouve intéressant, c'est quand Alexandre Tcherkassov répète que les dissidents d'avant et d'aujourd'hui sont minoritaires. Minoritaire par rapport à une société qu'on endort. Alors on l'endormait effectivement en la nettoyant de toute contestation dans les années 60-70. Aujourd'hui, on l'endort avec le bruit, comme dit Tcherkassov, ce qui est une belle formule, c'est-à-dire avec une télévision tonitruante, avec des multitudes de moyens de détourner la situation des Russes sur leur propre situation, c'est-à-dire sur la situation de la vie sociale, économique et politique de la Russie.
C'est terriblement efficace.
Ça marche très bien parce que depuis 2012, Vladimir Poutine vend le rêve du retour de la Grande Russie, donc en Ukraine, en Syrie, etc. Et ce rêve est vendu pour pallier évidemment à la situation finalement assez grave de crise politique et sociale de la Russie.
Et crise économique aussi. Combien de temps est-ce qu'il va pouvoir pallier justement cette crise économique? Parce qu'on le sait, la Russie, l'économie russe est dans une situation très très délicate. Il y a la baisse du cours du pétrole et du gaz, mais il y a aussi évidemment les sanctions américaines et européennes. européenne. Est-ce que à un moment, ça pourrait poser problème à Vladimir Poutine, vous pensez?
Ça posera, d'après l'économiste Sergueï Gouriev, ça posera des problèmes quand les réserves importantes de roubles accumulées pendant les périodes de prospérité vont s'épuiser. Et peut-être, ça va arriver dès fin 2016. Donc, il y a un risque qu'à un moment, justement, ça ne fonctionne plus du point de vue budgétaire.
On va parler, Michel Etchaninov, de la Biélorussie, dirigée depuis plus de 20 ans par le même homme, Alexandre Loukachenko, réélu depuis 1994 avec des scores soviétiques, plus de 80% à chaque fois. Il y a une douzaine d'années, les autorités biélorusses avaient fermé un lycée, y voyant un foyer de dissidents potentiels. Leur tort, enseigner en biélorusse et transmettre des valeurs démocratiques.
Vive le lycée ! Vive la Biélorussie ! Prenons les répressions politiques qui ont eu lieu en URSS dans les années 1920-1930. C'est un phénomène
négatif.
L'auteur nous explique que ces exactions servaient à punir les mauvais fonctionnaires et qu'elles amélioraient le fonctionnement de l'administration. En le lisant, on a l'impression que ces répressions étaient utiles.
La politique occupe une place considérable dans les écoles pro-russes. Les cours parlent de la Russie et de son héritage soviétique. Notre lycée, lui, insiste sur les traditions et la culture biélorusse, sur le respect de la langue maternelle, et on nous enseigne la vraie histoire.
Par exemple, quand on parle de l'élection présidentielle, le professeur nous explique que les résultats sont falsifiés. Avant, j'étais persuadée que tout était légal dans notre pays, que les citoyens votaient vraiment en faveur de notre président Loukachenko.
Voilà, extrait de L'école de la clandestinité, un documentaire de Marianne Kefriden, de Xavier Luizet, Sébastien Sega et Myriam Mylène qui avait été diffusé sur Arte l'année dernière. On va retrouver une nouvelle invitée, Virginie Simianek. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes une spécialiste des questions culturelles et linguistiques en Biélorussie et fondatrice par ailleurs de la maison d'édition Le Ver à Soie. C'est important d'être une spécialiste des questions culturelles et linguistiques en Biélorussie parce que en réalité, il faut comprendre que cette voix dissidente en Biélorussie, elle s'entend essentiellement par le truchement de la culture. En réalité, on se souvient bien sûr que l'année dernière, c'est une voix dissidente qui avait reçu le prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch. Mais en fait, bien qu'exilée en Europe, c'est vrai, dénonçant le régime, Alexievitch, elle n'est pas considérée comme une véritable dissidente. D'abord parce que elle écrit en russe et qu'en Biélorussie, les opposants radicaux, en tout cas, prônent l'usage unique du biélorusse. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est très intéressant, Virginie Simianek, mais vous allez nous le dire, c'est qu'en Biélorussie, la langue est devenue un outil pour lutter contre le régime. Quand on parle, quand on écrit en biélorussien, c'est un acte politique.
Oui, absolument, en fait. Mais c'est pas récent. C'est une chose qui existe depuis 200 ans, l'instrumentalisation politique des langues, y compris par le régime ou les régimes, pour justement maintenir aussi des régimes autoritaires. Donc, les langues, qu'elles soient biélorussiennes ou russes, sont toujours, finalement, quand on les parle, un positionnement politique ou en tout cas une façon d'affirmer qu'on appartient à tel ou tel camp. Mais le dire comme ça, c'est un petit peu simpliste aussi. Vous parliez de Svetlana Alexievitch, par exemple, qui est une auteure effectivement russophone. Elle a été vilipendée également par des russophones, il faut aussi le rappeler, pas simplement par des biélorussianophones. Aujourd'hui, elle est même soutenue par toute une partie des biélorussianophones à qui elle redonne finalement une culture légitime avec ce prix Nobel, parce que beaucoup de gens qui sont dans l'opposition sont finalement bilingues en Biélorussie. Le pays est bilingue officiellement, c'est-à-dire que les gens biélorussianophones parlent dans certaines situations le russe, et inversement, des gens qui sont de façon plus dominante russophone vont parler dans certaines situations le biélorussien. On assiste aussi dans cette société aujourd'hui à des expériences absolument fantastiques, y compris dans les médias, d'émissions qui sont données dans les deux langues, où vous avez par exemple un présentateur de télé qui va parler le russe, mais l'invité va parler le biélorussien et inversement. Donc il y a quand même des expériences, si vous voulez, dans cette société de mélange, dialogue, de consensus, en tout cas, qu'on essaye de rechercher autour de la langue, parce parce que la langue a quand même été, au début des années 90, le principal moyen par lequel le pouvoir autoritaire actuel est arrivé justement à sa place.
Oui, et puis par ailleurs, il faudra ajouter, Virginie Simianek, qu'en réalité, pour les auteurs biélorusses, le passage au russe, il est quasiment obligatoire pour espérer avoir du succès. Par exemple, l'auteur Vassil Bykov, il a connu une grande renommée dès l'instant où on a traduit ses écrits en russe.
Absolument, ouais. Mais alors Vassil Bykov, c'est un exemple très très singulier, puisque Vassil Bykov était un auteur d'expression biélorussienne, mais il s'auto-traduisait en russe lui-même pour pouvoir être traduit dans d'autres langues. C'est ce qu'on appelle en Biélorussie, en rigolant, le principe du double change linguistique. Mais là, on avait vraiment l'auteur qui le faisait lui-même, c'est-à-dire que voilà, il défendait sa propre œuvre, y compris en russe. Mais pourquoi? Parce que le russe, de toute façon, est la langue de l'émancipation sociale en Biélorussie historiquement, on va dire depuis 200 ans. Mais c'est vrai que les auteurs d'expression biélorussianophone se battent aussi pour être connus en tant qu'auteurs en biélorussien. Donc, mais le rapport entre les deux langues existe et on ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire que ce serait simpliste, finalement, de dire qu'il y a une frontière entre ces deux langues et que les gens ne seraient pas bilingues, ou en tout cas dans ce pays.
Michel Etchalinov, vous racontez dans votre ouvrage, bien sûr, votre rencontre avec Svetlana Alexievitch.
Oui, Svetlana Alexievitch, je suis allé la voir chez elle.
À Minsk.
Pardon ?
À Minsk.
À Minsk, donc dans l'appartement qu'elle occupe. Alors elle est revenue parce qu'il y a des moments où effectivement on lui avait forcé la main pour qu'elle parte à l'étranger. On l'avait vraiment empêché de vivre à Minsk. Moi, elle m'a quand même révélé quand je suis entré dans son immeuble, dans cet énorme bar d'immeubles qui domine le fleuve, que son courrier était systématiquement ouvert et que depuis quelques années à peu près tous ses voisins avaient fait un peu de prison. Donc quand même, elle m'a quand même, malgré son sourire et son accueil, montré quand même l'état de menace qui pèse toujours sur la société.
Par ailleurs, quand elle a eu le prix Nobel, elle a eu un coup de téléphone de Loukachenko, pas pour du tout pour la féliciter.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire elle a des propos vis-à-vis de Poutine et de Loukachenko qui sont totalement dénués d'ambiguïté. Moi, elle m'a dit très clairement, si un jour le peuple se soulève contre Loukachenko, Loukachenko n'hésitera pas un instant à manier la force et à transformer son pays en Corée du Nord. Donc, elle ne mâche pas ses mots, malgré le fait effectivement qu'elle soit russophone, mais que cette querelle, il me semble, biélorussienne, russe, c'est beaucoup calmé au nom justement d'une lutte commune contre la dictature. Et j'en prends un seul exemple. Il y a une galerie dans une cour du centre de Minsk qui porte un nom extrêmement symbolique.
Ça s'appelle
OU. Alors c'est la lettre OU.
Y avec un accent.
Avec une sorte de petit chapeau inversé dessus. C'est la seule lettre qui n'existe qu'en biélorussien, m'ont dit les deux galeristes qui s'en occupent, et qui s'occupent justement d'éducation par l'art. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans un nationalisme linguistique agressif, parce que cette lettre ne peut donner de son que si elle est associée à une autre lettre. Donc associée à une lettre, par exemple, plus cyrillique. Donc on est dans l'idée que le biélorussien doit avoir sa place, et doit pas être réprimé en tant que langue, mais on n'est pas du tout dans la revendication d'une langue biélorussienne qui viendrait remplacer le russe, évidemment.
Et ce que vous dit la jeune dissidente, justement, que vous rencontrez, qui s'appelle Anna, c'est qu'elle a compris depuis très longtemps que, finalement, la contestation politique, la manifestation, finalement, ne servait pas à grand-chose, n'avait pas beaucoup d'effet, en tout cas, n'était pas très efficace, et qu'il valait mieux organiser la fronde dans le domaine de la culture.
Oui, en fait, ça s'est passé en 2010, aux avant-dernières élections. Il y a quand même énormément de gens qui sont venus manifester. Près de 700 personnes ont été arrêtées, mises en prison. Les autres ont toutes été convoquées. Ça a été terriblement violent. Depuis, et alors que l'Europe n'a rien fait pour soutenir les Biélorussiens, d'après les gens que j'ai interrogés, qui sont un peu découragés, un peu déçus de l'indifférence de l'Europe, eh ben ils se sont dit, on va investir un champ où on est sûr de pas perdre et pas de se prendre de coups. C'est le champ, effectivement, de l'art, de la culture, de la formation de l'esprit civique.
Et est-ce que vous pensez, Virginie Simianek, que le monde de la culture, le monde de l'art pourrait venir à bout de l'indétrônable Loukachenko? Parce que je vous pose la question, ça fait longtemps maintenant que vous allez en Biélorussie, je crois que ça fait une vingtaine d'années que vous rendez plusieurs fois par an en Biélorussie. Vous avez le sentiment que ce monde de la culture pourrait venir à bout de Loukachenko?
Écoutez, c'est peut-être un vœu pieux, mais j'ai noté moi aussi, comme le dit Michel, à un moment donné, une bascule réelle dans la société, où les gens, finalement, ont pris conscience que le fait d'aller manifester ne servait à rien, que le champ du politique devait se déplacer ailleurs. La politique n'est plus, effectivement, dans le champ de la politique politicienne, et c'est vrai que c'est la culture qui a repris en charge, finalement, la lutte, la résistance politique au régime. Et alors, est-ce que ces gens vont réussir? Je ne le sais pas, bien évidemment, mais par contre, une chose est sûre, c'est que j'ai entendu dire clairement des gens très importants du monde culturel de Biélorussie dire que maintenant, il fallait travailler à faire en sorte que ce régime devienne inutile et que seul le monde de la culture pouvait y parvenir à force de travail et de persévérance, c'est-à-dire changer effectivement les représentations des gens, changer la manière dont ils se positionnent par rapport à ce monde de brutes qui est le leur, oui. C'est quelque chose qui est très très fort dans le monde de la culture underground, on va dire, alternative au système.
Eh bien, il faudra voir si ce monde de la culture arrive à détrôner Loukachenko. En tout cas, un grand merci à vous, Virginie Simienek, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondatrice de cette maison d'édition Le Verre à Soie. Et un grand merci à vous, Michel Elchaninov, de nous avoir accompagnés ce matin. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je ne saurais conseiller aux auditeurs que de lire votre livre qui va paraître demain chez Stock, Les Nouveaux Dissidents. Nous, on va poursuivre notre semaine sur ces nouvelles dissidences. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous, c'était un plaisir.